Elle était une fois une femme qui n'avait rien d'une princesse, mais tout d'une vaincresse. Une femme qui en avait assez d'être ignorée. Une femme qui rêvait d'un avenir meilleur pour les siens, d'un avenir où toutes les femmes seraient considérées. Alors elle appela à elle ses sœurs et ses adelphes et s'engagea pour que plus jamais leurs droits ne soient bafoués. Bienvenue sur Radio G dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vous nous suivez sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr où vous pouvez d'ailleurs nous écrire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines, Emeline et Mayalène. Bonjour à vous deux, comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va nickel toi?
Trop bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle heure de papotage. Au sommaire de cette émission, on vous fait découvrir « Moi qui t'aimais », le nouveau film anti-biopic sur la vie de Simone Signoret. Vous connaissez Margaret Atwood, cette autrice canadienne qui a marqué le monde, notamment avec son roman « La servante écarlate ». Non ? Eh bien, restez avec nous alors. On vous présente aussi « La prisonnière des sargasses » de Jean Rhys et je peux vous dire que Léonie nous envoie du lourd avec cette nouvelle recommandation. Est-ce que vous vous rappelez de vos premières règles ? De ce moment où vous avez découvert du sang au fond de la culotte, des premières douleurs et très certainement des premières hontes, on parle aujourd'hui de ce sujet qui a trop longtemps été tabou, alors restez avec nous. Dans chaque émission, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles, ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Et aujourd'hui, nous recevons une femme qui fait entendre sa voix à la radio, mais surtout en chanson. Il s'agit de Célia Guilherme, artiste de comédie musicale et prof de chant aux Folies Angevines. Bonjour Célia, comment ça va?
Hello, ça va et toi?
Ça va super! Bon, ici on se dit tout et aujourd'hui je peux vraiment dire que je suis entourée de mes copines parce que Célia et moi on a fait notre volontariat en service civique l'année dernière à Radio G et on est encore toutes les deux chroniqueuses dans l'émission J'ai la ref, donc on se connaît bien.
Oh oui!
Nous découvrirons ton parcours et tes projets dans un quart d'heure environ, alors restez avec nous. J'en profite aussi pour dire bonjour à Maëlys et Cassandra qui sont avec nous aujourd'hui dans notre émission et sur le plateau. Bonjour à vous deux!
Salut!
Coucou!
Vous êtes sur Radio G 101.5 FM pendant une heure où on vous accompagne pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. All day, every day, therapist, mother, maintenance, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him, so that he never lifts a finger. On commence avant tout par une petite discussion. Il a été annoncé au début du mois d'octobre les nouveaux uniformes des salariés de l'Eurostar et le mot d'ordre de cette nouvelle collection, c'est l'inclusivité. Parce qu'en effet, la collection compte plus de 50 pièces interchangeables, rendant hommage aux différents styles d'Europe avec des tailleurs inspirés de l'élégance à la française, des foulards en référence à Bruxelles et Amsterdam ou encore des Doc Martens vertes en clin d'œil à la culture britannique. Mais surtout, la collection dessinée par Emmanuel Pleskov se veut gender neutral et propose donc à l'ensemble des salariés de choisir parmi les différentes pièces les combinaisons qu'elles souhaitent. Ainsi, chaque membre du personnel peut choisir une jupe ou un pantalon sans aucune assignation de genre. La photographie illustrant cette nouvelle collection montre donc notamment des hommes portant fièrement la jupe. Toutefois, vous vous en doutez, ça n'a pas fait l'unanimité dans le public. Si beaucoup s'enthousiasment de la diversité et de la possibilité pour chacun et chacune de choisir ses tenues, d'autres hurlent au scandale parce qu'un homme en jupe, c'est la loose, voyons. Personnellement, je trouve qu'il faut avoir un ego bien fragile pour s'insurger de la tenue d'autrui. Mais je voudrais surtout connaître votre avis autour du plateau. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle avancée ou au contraire, faut arrêter les conneries ? Mayalène ?
Moi, je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Enfin, en mode, voilà, chacun choisit ce qu'il a envie de porter et ça devrait être, depuis déjà très longtemps, ça devrait être banalisé. Mais bon, et puis bah, ceux qui ne sont pas contents, c'est juste des frustrés. Puis voilà, quoi.
Je suis complètement d'accord. Et toi, Emeline, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, franchement, je suis plutôt d'accord. Hein. C'est assez important quand même qu'on puisse choisir notre tenue. Surtout qu'en sport, je trouve ça sympa quand même de se sentir confortable dans la tenue qu'on porte. Donc franchement, ça quand même cool.
Ouais, ok. Et toi, Célia, qu'est-ce que t'en dis des hommes en jupe dans l'Eurostar ?
Ah mais moi je suis totalement pour des hommes en jupe. Après c'est juste le côté uniforme, moi qui chacun a sa
on choisit ses vêtements avec notre personnalité, tu vois. Mm. Le fait d'avoir un uniforme, ça enlève un peu cette liberté-là. Mais des hommes en jupe, moi, je suis totalement pour. Hein, dans ce cas-là. Alors, si on dit qu'on est contre les femmes en pantalon, ça dit quoi?
Pardon,
je suis désolée. Donc, des hommes en jupe, mais totalement pour.
D'accord. Et bah, merci beaucoup pour cet échange. C'est toujours trop intéressant de discuter avec vous. On continue maintenant avec les nouvelles pépites de la semaine. Je vais vous partager ce qu'ont déniché Anna et Léonie. Et pour ça, autant vous dire que j'ai déjà pris mes places de cinéma. Bienvenue dans le Point Culture d'Elle était une fois. J'espère que vous qui nous écoutez vous portez à merveille aujourd'hui. On parle d'actu ciné avec Simone Signoret et Marina Foïs, puis nous parlerons de la réédition d'un album d'une artiste exceptionnelle. Depuis le 1er octobre déjà, vous pouvez retrouver dans vos salles de cinéma « Moi qui t'aimais », un film anti-biopic où l'on explore les hauts et les bas de l'amour de Simone Signoret et de Yves Montand, interprété par Marina Foïs et Roche Dizem. Amour surligné d'infidélité et de tension jusqu'à la mort de Signoret en 1985. Antibiopic parce qu'on refuse le latex pour un sosie physique à la perfection. Bon, je vais éviter de m'étaler sur le synopsis pour ne pas vous spoiler, mais si vous connaissez l'histoire pas si jolie des deux tourtereaux, vous savez à quoi vous attendre. Pour les autres, la superbe performance des acteurs principaux saura vous imprégner dans la fin de vie compliquée de Simone Signoret, portant le poids lourd de la liaison pas vraiment secrète entre son mari et Marilyn Monroe. Je suis tombée récemment sur une interview avec les deux acteurs principaux, rédigée par Laurence Rémilla, qui se plongeait dans les différents ressentis de Marina Foïs et Roche Dizem par rapport à ce rôle. Au début, Diane Curis, la réalisatrice, proposait une version sur une période de leur vie plus longue, mais Marina affirmait qu'elle ne se sentait pas capable de jouer Simone à 40 ans face à Marilyn Monroe. Pour elle, il fallait que cette rivalité montre qu'elles avaient toutes les deux une beauté égale, cependant, selon l'actrice, elle était déjà trop vieille et s'était donc perdue d'avance. La Réal a donc pris la décision d'un scénario se concentrant sur les 12 dernières années de Signoret. Ce qu'on apprend grâce à cette interview, c'est aussi une personnalité de Signoret refusant des codes inscrits, des normes établies. Simone Signoret a toujours refusé de se sacrifier, que ce soit pour le cinéma ou sa vie amoureuse. Elle souhaitait rester authentique et c'est ce qui lui a permis certains rôles, comme dans La Veuve Courdec, Le Chat ou encore La Vie devant soi, qu'elle n'aurait jamais pu avoir si elle avait fait, par exemple, des injections. Elle l'affirmait en s'exprimant sur le sujet, je cite « Mes kilos, mes rides, ils m'offrent Madame Rosa. Je n'aurais pas pu faire Madame Rosa si je m'étais fait refaire le visage ou si je faisais du 36. » De plus, Signoret pour Marina Foïs, c'était une féministe. Malgré cela, elle restait féministe de l'époque avant tout. Et comme elle le dit, je cite « On voit comment on peut être très grande gueule dans l'espace public et une serpillière dans l'espace intime. » Bon, ça se discute évidemment. Quittons à présent le cinéma pour partir vers un autre art tout aussi beau, la musique. Et plus précisément, partons à la découverte ou à la redécouverte d'une artiste française émergente, Solane. C'est en 2020, après des études de théâtre qui n'ont mené à rien, qu'elle décide, accompagnée de son ukulélé, de se lancer sur les réseaux sociaux en tant que chanteuse. Après quelques années, elle fait notamment un duo avec Zao de Sagazan en 2023 qui la met en lumière, mais c'est sa chanson « Rome » sortie en 2024 qui fait exploser sa notoriété. C'est d'ailleurs à la sortie de cette musique que j'ai personnellement découvert Solane. Rome, c'est une chanson qui évoque l'oppression masculine et les agressions qu'elle entraîne. Et malheureusement, comme pour beaucoup de femmes, chaque jour, critiquer le système patriarcal n'est pas sans conséquences. Alors quand elle fait référence à la création mythologique de la ville de Rome pour dénoncer la sexualisation des femmes en chantant, je cite, « Et je ne compte même plus les fois où on m'a traité de chienne, mais c'est une chienne qui a élevé Rome, les putes comme moi portent les rêves des hommes. » Elle se retrouve au cœur d'un cyberharcèlement massif où elle doit jongler entre menaces et insultes. Mais tout ça ne l'a pas empêchée de continuer à écrire et en janvier est sorti son premier album « Si on tombe, ce sera beau ». Si on sombre, ce sera beau, pardon. Et quelle claque! Je ne peux pas vous recommander assez cet album, je l'ai personnellement beaucoup écouté et j'ai eu la chance de voir Solane se produire sur scène et sa présence scénique m'a complètement éblouie, je ne m'en remets toujours pas. Si on sombre, ce sera beau, c'est une série de musique engagée et féministe qui parle du rapport au corps, des relations toxiques, du harcèlement ou encore des agressions sexuelles. Que ce soit sur des musiques douces ou sur des musiques enragées, elle nous transporte dans son univers et on n'en ressort pas indemne, en tout cas, moi j'ai pas réussi. Et alors que son album était encore dans toutes les têtes, Solane a annoncé il y a quelques temps maintenant la réédition de l'album intitulé cette fois « Si on sombre, ce sera beau, promis ». Disponible à partir du 14 novembre prochain. L'excuse idéale pour se replonger une nouvelle fois dans son univers. Alors si vous avez quelques minutes, ayez la curiosité de découvrir ou redécouvrir une artiste qui, j'en suis sûre, va marquer la scène musicale française des prochaines années. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ces nouvelles chanteuses émergentes qui veulent faire cramer cette société patriarcale. C'est donc avec cette recommandation musicale que je clôture ce point culture. Du cinéma à la musique, en passant par toutes les formes d'art, les femmes sont partout et elles ne se laissent plus faire. Néanmoins, avant de clôturer ce point culture, je voudrais faire un petit tour de table. Est-ce que vous connaissiez Solane? Et si oui, est-ce que vous avez hâte de la réédition de son album? Célia.
Moi, je connaissais juste sa chanson Rome, ouais. Pas les autres. Mais du coup, déjà, je savais même pas qu'elle allait sortir un album. Mais du coup, j'ai très envie de l'écouter. Et encore plus sa réédition.
Ok, trop chouette. Et toi, Mayalène?
C'est pas du tout le genre de musique que j'écoute.
Ouais. Ok.
Du coup, je connaissais pas du tout. Mais en vrai, pour la curiosité, pourquoi pas?
Ok, trop bien. Bah, si on peut te permettre de découvrir de nouvelles artistes, c'est aussi pour ça que nous sommes là. Et toi, Emeline?
Alors, je connaissais un petit peu. J'avais entendu Rome sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Mais sinon, j'écoutais pas tant que ça.
Et ok.
En vrai, pourquoi pas découvrir justement son nouvel album?
Ouais. Ce sera l'occasion. D'ailleurs, il y a déjà une musique qui est sortie. Ça s'appelle Thelma et Louise. Et c'est en feat avec Yoa, une artiste pareil que je découvre totalement. Et la chanson est trop trop bien. Donc vraiment, le 14 novembre, allez toutes et tous streamer ce nouvel album qui a l'air trop trop chouette. Merci à vous pour cet échange. Et merci Anna et Léonie pour cette chronique qui nous permet de compléter notre culture du féminisme. Vous vous souvenez de Margaret Atwood, dont je vous parlais tout à l'heure? Il s'agit d'une autrice canadienne engagée qui n'a jamais eu peur de prendre position selon ses convictions, et on l'admire pour cela. C'est le portrait de la semaine que tu nous présentes, Emeline, et j'ai déjà hâte de découvrir l'histoire de cette femme qui a l'air vraiment trop stylée.
Elle était une fois une petite fille qui grandit dans la forêt et passe son temps à feuilleter des bouquins. Une enfant curieuse et créative qui n'est autre que Margaret Eleanor Atwood, qui, une fois adulte, deviendra l'une des autrices les plus importantes du Canada. Rien que ça. En 1962, Margaret prépare son baccalauréat d'art à l'université de Toronto, puis ira à Harvard pour poursuivre ses études. En parallèle, elle continue de faire ce qui l'anime, l'écriture. Elle compose et autopublie son premier recueil de poèmes, Double Perséphone, en 1961. À la suite de ses études de littérature, elle fait du professorat en enseignant l'anglais dans quelques universités. Mais son désir d'écrire est toujours présent, plus qu'un simple loisir, c'est une vraie passion. Son tout premier roman, The Edible Woman, en français La Femme Comestible, de l'éditeur Little Brown, est une œuvre féministe qui dépeint la vie d'une femme qui arrête de manger à cause de l'angoisse de devenir une femme de maison. Elle est symboliquement mangée par son mari, ses enfants et la société. Si vous trouvez cette description assez spéciale, voire dérangeante, dommage pour vous, car Margaret Atwood est une spécialiste du roman d'anticipation et des mondes dystopiques réalistes. C'est dans les années 80 qu'elle débute l'écriture de son roman The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, édité par McClelland et Stewart, qui lui apporte un énorme succès. Elle y met toutes ses connaissances des systèmes actuels et passés qui ont oppressé et privé de liberté leur population, et précisément les femmes. Elle ressort les méthodes, les langages et les caractéristiques d'une société fermée afin de créer l'univers de l'histoire. Elle a vraiment tout fait pour que l'histoire nous prenne aux tripes, et surtout qu'on comprenne que malgré le caractère dystopique du roman, les événements ne sont pas irréalistes. Je ne vous en dis pas plus. Si vous avez lu le livre ou regardé l'adaptation en série, j'espère que vous allez bien depuis. Et d'ailleurs, comme pour Chimamanda Ngozi Adichie, présenté la semaine dernière, le livre se fera bannir aux États-Unis pour contenu dérangeant pour les élèves et extrémisme féministe. Entre autres, Margaret Atwood se diversifie et s'implique dans la rédaction pour House of Anansi Press de 1971 à 1973, qui édite son livre Sigan Words, qui rassemble ses essais et dans la caricature de 10 magazines. Elle écrira aussi des textes et scénarios pour la télé. Enfin, toujours dans les années 70, elle est présidente du PEN International et directrice de l'Oxford Book of Canadian Poetry. Et tout ça, en travaillant sur ses romans, je ne sais pas comment elle s'est organisée pour tout ça. Franchement, je l'admire. Lors de ces manifestations, lors des manifestations après l'élection de Trump, on entend dans les rues « Rendez Margaret Atwood à la fiction », soulignant certes l'inquiétude des manifestants, mais aussi le symbole qu'est cette femme. Je vous ai présenté Margaret Atwood le temps de quelques minutes, sans qui le monde de la littérature ne serait pas le même, en espérant vous avoir donné envie de lire ses livres.
Merci beaucoup Emmeline pour ce nouveau portrait. Tu as le chic pour nous présenter des femmes trop badass et j'adore. Nous allons à présent marquer une pause musicale qui nous est présentée par toi Mayalen.
Alors moi je vais vous présenter de moins en moins de Eline. C'est une artiste rap émergente que j'ai découverte il y a quelques semaines, je crois 2-3 semaines. Et en fait je me suis pris une claque de fou. Son il est sorti en 2024.
Ok.
Mais vraiment, j'ai kiffé de fou. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire découvrir cette pépite. Voilà.
Très bien. Et donc, on se retrouve dans quelques instants sur Radio G, 101.5 FM. À tout de suite.
Je prends de l'âge, je monte, je trafic les minutes. Je vois courir sur le bitume. L'habitude ça nous s'efface. Attends plus rien qui nous stimule. J'étais sage mais non seulement je le cime. J'avais 10 messages de 10 potes. J'étais différente de ouf. Je voulais croire qu'on était si proches. Mais la distance elle me touche. Je crois bien tout ça va m'abîmer. Je veux plus compter l'un par milliers. J'assume plus tellement l'alcool. Pourtant je suis encore jeune et cool. Je résume le tout dans l'album. Mais tu comprends qu'à neuf et tout le temps c'est cool. Je me sens vive que quand je m'écroule. On sait pas vivre à deux, pas vivre pour soi-même. On sait pas faire d'aveu, pas se dire qu'on s'aime. On espère toujours mieux, mais ça vaut pas la peine. Mais ça vaut pas la peine. Je prends de l'âge, je monte, si trafic les minutes. J'ai que le temps passe, je vois courir sur le bitume. L'habitude ça nous s'efface, attend plus rien qui nous stimule. J'étais sage, mais non seulement je le simule. J'suis dans ma face, lève, j'suis sous skate car j'peux plus ça qui grand monde. J'sors mon petit sac et mon nom. J'ai pris cette claque, j'suis enceinte. En ce moment, elle tombe dans le cendre qui aura couleur de l'essence. De couler sous le sens. J'ai de mauvaises manies mais sans ça. Je crois j'peux pas vivre dans ce monde. Sur la capitale les gens trompent. Faut pas parier que la chance tombe. En ce moment les secondes s'entassent. Comme un cri de douleur quand j'y pense. Je prends de l'âge, je monte si trafic les minutes. C'est leur business qui fait que mon trajet sera si dur. De là, je monte si trafic les minutes. J'ai que le temps passe, je vois courir sur le bitume. L'habitude ça nous s'efface, attend plus rien qui nous stimule. J'étais sage, mais non seulement je le simule. Je prends de là, je monte si trafic les minutes. J'ai que le temps passe, je vois courir sur le bitume. L'habitude ça nous s'efface, attend plus rien qui nous stimule. J'étais sage, mais non seulement je le simule.
Vous êtes toujours avec nous sur le 101.5 FM dans Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines, Emmeline, ça va toujours ?
Très bien.
Toujours avec Mayalen, Mayalen, ça va toujours, pardon.
Ça va très bien.
Je bégaye aujourd'hui. Mmh. Et elle nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. C'est Célia Guilherme, ma copine, artiste de comédie musicale et prof de chant au Folie Angevine. Célia, ça va toujours ?
Ça va toujours et toi ?
Oui, moi ça va, je bégaye, mais ça va. On a l'habitude de dire sur cette antenne que son rire s'entend à l'autre bout du monde. Mais l'avez-vous déjà entendu chanter ? C'est notre invitée de la semaine. Bonjour Célia. Alors ça, j'ai fait que de le répéter depuis le début de l'émission, mais je vais le redire encore une fois. Tu es artiste de comédie musicale et prof de chant au Folie Angevine. Mais en vrai, je mens parce que tu fais plein d'autres choses et c'est justement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, on va commencer par une petite contextualisation pour apprendre à te connaître. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est la comédie musicale ? Parce que tout le monde n'est pas forcément familière avec cette forme d'art.
Justement, la comédie musicale, comme tu l'as dit, c'est un art qui mélange plusieurs disciplines, qui mélange le chant, la danse et le théâtre. Attention à ne pas confondre avec l'opéra. La différence, c'est qu'on joue vraiment sur des bandes-son. Il n'y a pas de musicien à côté.
Ok, d'accord, très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais de la comédie musicale, toi ?
C'est ma sixième année.
Oh, waouh, 6 ans. ça commence à monter un peu, hein ?
Ouais.
Tu commences à être... Ok,
ça y est. Trop bien.
Et ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène ?
Je peux pas te dire monter sur scène parce que depuis toute petite, je suis dans ce milieu-là.
C'est vrai que
grandi
tu es une star
là-dedans.
Un peu.
J'ai grandi là-dedans. Par contre, ce qui m'a donné envie de la comédie musicale, c'est que j'ai été bercée par Roméo et Juliette.
On connaît ton amour pour Damien Sargue et si vous ne le saviez pas, eh ben je balance.
Oupsie.
Donc nous sommes dans Elle était une fois, une émission qui vise à mettre les femmes dans la lumière qu'elles méritent. Comment c'est d'être une femme dans le milieu de la comédie musicale ? Est-ce que c'est un milieu qui est plutôt masculin ou pas du tout ?
Pas beaucoup.
Pas tant ?
Ouais, non, pas tant. Pas tant. Mais justement, du coup, c'est plus difficile de se faire sa place parce qu'on nous met directement dans des cases.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est directement... les femmes, elles savent bien chanter, elles savent bien danser, elles sont élégantes de base. Pas forcément. C'est pas inné toujours, ça s'acquiert. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où en fait c'est du travail personnel, mais les gens de l'extérieur ils s'en rendent pas compte en fait.
Oui, bah ça c'est toujours le problème. On se rend pas compte du travail qu'il y a derrière quelque chose, n'importe quelle création. D'ailleurs, j'ai pu voir aux Folies en juin que vous étiez effectivement une majorité de femmes sur scène. Est-ce que c'est un avantage parce que du coup il y a une ambiance un peu sorore, un peu on est toutes des copines et tout, c'est trop cool, ou au contraire c'est un peu la galère parce que du coup ça rend plus compliqué pour jouer les rôles masculins peut-être ou pas du tout ?
Honnêtement, pas du tout. C'est la première année l'année dernière. Nous on n'a jamais eu de soucis à jouer, enfin à avoir des femmes qui jouent des hommes.
Ok.
Par contre, du coup, dès qu'on a voulu proposer des hommes qui jouent des femmes l'année dernière, il y en a qui ont été contre.
Mais non.
Là, j'avoue, j'étais hyper choquée. Je reviens toujours pas. Ça fait un an, je suis toujours choquée.
Ok. Et il y avait une explication à cet avis qui a été contre.
Disons que c'était pour un rôle de muse. Mm-hmm. Et il y a un truc que je peux entendre, c'est... oui, les muses dans notre histoire de base, c'est la mythologie, c'est ancré dans l'histoire où on dit toujours que c'est des femmes, mais rien n'oblige. Justement, t'es là pour interpréter un rôle. Interpréter un rôle, ça veut pas dire rester tel que tu es toi, c'est te transformer en un autre personnage, incarner quelqu'un d'autre.
C'est très beau ce que tu racontes. Voilà. si je dis pas de bêtises, cette année tu n'es plus élève aux Folies Angevines parce que tu es passée de l'autre côté, tu donnes maintenant des cours. Qu'est-ce que tu fais exactement et est-ce que tu donnes que des cours de chant ou tu fais aussi d'autres choses ?
Alors, je donne des cours de chant en comédie musicale pour des adultes et des jeunes adultes.
Ok.
Je donne des cours de danse en comédie musicale.
Oh, wow.
Donc, je crée des chorégraphies pour des publics ados. Et ce qui diffère encore, il y a encore deux jeux. Oh là là, il y a trop de casquettes en fait. Et pour tout ce qui va être public enfant et pré-ado, je fais carrément les trois, chant, danse et théâtre.
Waouh.
Et puis, il y a un autre atelier en parallèle qui s'appelle chanson mise en scène, où là, ça fait vraiment un peu de théâtre, du chant, pas de danse.
Mm-hmm.
Et du coup, là, je fais le tout pareil. J'écris le script, tout ça.
Ça fait beaucoup de boulot.
Un peu.
Tu t'en sors ?
Ouais, mais moi j'adore. Et puis surtout, je peux compter sur l'aide de mes fantastiques binômes pour tout ce qui va être les autres disciplines, comme je vais les nommer un peu.
Vas-y.
Manon et Vinciane.
Ah, on leur fait des bisous, des cœurs. Merci à elles. Qu'est-ce que ça t'a fait de toi de passer de élève à prof ? Est-ce que ça te donne l'impression un peu de passer à l'étape supérieure, d'avoir peut-être aussi plus de légitimité en tant qu'artiste ou vraiment pas du tout ?
En vrai, c'est une étape, mais incroyable.
Ouais.
Mais je me suis tellement remise en question. Mais c'est fou, parce que je me suis dit, mais je commençais à enseigner à 19 ans. Est-ce que je suis vraiment légitime ? J'ai 19 ans. Enfin, qu'est-ce que je peux apporter ? En plus, on me dit, tu peux enseigner à des adultes. Je fais, ah, super, j'ai 19 ans, j'enseigne à des adultes. Il n'y a rien qui va. Et en fait, Manon, elle m'a dit, mais moi, tu sais, j'ai commencé à enseigner à des adultes à 19-20 ans, pareil, et puis c'est une autre approche, c'est hyper enrichissant. Et du coup, cette année, c'est ma deuxième année, et je sens que c'est beaucoup plus facile et ça, c'est un cap, quoi. Après, il faut réussir, ça c'est plus dur, à mettre de côté la pratique. C'est plus nous qui pratiquons, c'est les autres. Et du coup, c'est ce qui va le plus manquer.
Ok, mais globalement, ça va pour l'instant, tu t'en sors bien et ça te plaît.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, c'est le principal alors de kiffer ce que tu fais. Emeline et Mayalen, si vous avez des questions durant l'interview, n'hésitez pas, je reviendrai à vous tout à l'heure. Du coup, Célia, quand est-ce que nous pourrons venir voir le fruit de ton labeur ? Est-ce que tu as déjà des dates des spectacles de tes élèves ou pas encore, c'est trop tôt dans l'année ?
Alors, j'ai pas de date précise, par contre, je peux directement dire ils joueront pendant le printemps des folies qui en général se déroule, démarre le dernier week-end d'avril jusqu'à la fin de la première semaine de juillet.
C'est vrai que c'est un printemps très long chez vous.
C'est un printemps très 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 long, même très intense pour les intervenants.
Bah, tu m'étonnes. Ok, on parle depuis tout à l'heure des folies angevines et de tes cours, mais je crois que tu as également une troupe à côté avec laquelle tu prépares un spectacle en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Un petit peu, j'avoue. Oui, je fais partie de la troupe Grain de Folie. Alors, bon, ça fait penser aux folies angevines parce qu'on est plusieurs à venir de là, mais pas tous. Il y a aussi des personnes extérieures que vous pourrez justement rencontrer à ce moment-là, ou alors que vous avez déjà rencontré si vous êtes allé voir le spectacle Boots qu'ils ont produit l'année dernière. En tout cas, notre spectacle, c'est une création.
Oh.
Donc voilà, total inconnu pour vous, avec plusieurs un jukebox de chansons françaises,
okay,
plus ou moins connues, et puis ce sera du théâtre musical.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce sera vraiment beaucoup de théâtre, quelques musiques, c'est plus des... J'ai pas trop envie d'en dire un.
Ok, d'accord.
Voilà, plus... C'est pas autant danser, chanter que de la comédie musicale, on
d'accord
pourrait avoir.
Ok, bah tu m'intrigues avec tout ça. Ok, très bien. De nouveau, donc, nous sommes dans Elle était une fois, donc c'est une émission féministe de Radio G. Et donc j'aimerais qu'on discute un petit peu de ta relation avec le féminisme. Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours intéressé ou c'est quelque chose qui t'est venu sur le tard et dont tu apprends tous les jours encore petit à petit ?
Moi, disons que, on va dire, j'apprends... J'ai toujours un peu défendu la cause, enfin, j'ai toujours été là. C'est surtout, je réalise que je suis tellement choquée d'un nombre incalculable de trucs. Bah, déjà tout à l'heure, je l'ai dit sur le fait que les hommes ils refusent de jouer des rôles de femmes, par exemple. Enfin, c'est minime, mais c'est ce qui fait que je me dis, mais en fait, faut pas que je me pose de questions, juste je défends la cause au quotidien, vraiment. Si sur ce truc là, ça avait été moi l'intervenante, vraiment, je pense que j'aurais. Je me serais peut-être un peu énervée, j'avoue.
Tu les aurais démarrées. Ok. Mayalen et Emeline, est-ce que vous avez une question pour notre invitée ou pas ? C'est ok de ne pas en avoir.
Hein. Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Ok. Trop bien. Donc, Célia, est-ce que tu réalises des petites actions, grandes ou petites, dans ton activité artistique ou dans la vie de tous les jours, qui témoignent un peu de ta sensibilisation ? Waouh, de ta sensibilité sur le sujet du féminisme. Par exemple, est-ce que tu relais du contenu militant sur les réseaux ? Est-ce que tu vas pas laisser un homme te couper la parole ? Est-ce que tu utilises le langage inclusif ? Ou toute autre chose ? Qu'est-ce que toi, un peu, tu fais à ton échelle ? Et si tu fais rien, c'est ok aussi. Hein.
Non, moi, j'utilise le langage inclusif. Je sais que, par exemple, pendant tous mes cours, il peut y avoir 7 filles et un garçon.
Mm-hmm.
Je vais pas dire tous, je vais dire toutes. Et tous.
Okay.
Je vais toujours faire attention à ça.
Okay.
Vraiment pour que chacun vraiment ait sa place à ce moment-là. Même mes frères, j'essaye de leur enseigner, disons que la femme a une belle place dans la société et qu'on ne s'en rend pas forcément beaucoup compte aujourd'hui. Et même, donc, je suis surveillante dans un collège aussi à part. Et pareil, j'essaye, au travers de certaines discussions, de leur montrer la valeur et l'importance aussi de la femme dans la société.
Ok. Donc, tu essayes d'éduquer un petit peu à ton échelle et comme tu peux les gens autour de toi.
Exactement.
C'est très beau et c'est vraiment pas facile à faire. Donc,
c'est tellement dur.
Je t'envoie du soutien parce que vraiment, des fois, et parce que le féminisme, c'est aussi de la sororité, qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune femme qui aimerait se lancer dans la comédie musicale mais qui n'ose pas ?
Moi, je lui dirais de foncer parce que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien.
Ok.
Moi, de base, j'allais juste m'inscrire à une activité comme on va s'inscrire à de la danse ou autre. Et finalement, j'y ai trouvé une seconde famille, un nouveau métier, une passion. J'ai tellement changé depuis. De base, j'étais toute timide. Aujourd'hui, aujourd'hui on m'entend rigoler de l'autre bout de la rue. Enfin, c'est fou tout ce que ça apporte.
Ouais, ça t'a beaucoup apporté, tu
ouais,
le sens.
Ouais, ouais. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Et au pire, on perd rien, quoi.
Ouais.
C'est que du bénéf.
Que du bénéf. Est-ce que le rêve ultime dans ta vie, ce serait de pouvoir en vivre ?
Bah, en fait, justement, c'est la question que je me pose en ce moment. Je me dis, est-ce que j'ai envie de m'y lancer ou pas pleinement, sachant qu'en fait, je suis déjà heureuse dans la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai envie de sacrifier d'autres trucs alors que je me plais bien comme je suis aujourd'hui ?
Telle est la question.
Affaire à suivre, donc.
C'est trop mignon. Ah, tu me... Ok. Une dernière fois, Maïalène et Emeline, est-ce que vous avez des petites questions pour notre invité ? Non, toujours pas. Est-ce que Maëlys et Cassandra, vous avez une question pour notre invité ? Non plus ? Eh bien, c'est OK. Bah, merci beaucoup, Célia.
Mais merci à toi.
Trop chouette de t'avoir avec nous sur le plateau et tout. Petit retour à la maison, comme ça, on sait que t'es bien ici. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut retrouver toutes tes actualités sur ton compte Instagram ou sur le site des Folies Angevines, peut-être ?
Bah même pas parce que
même pas, okay.
Le site est pas à jour et mon compte Insta, faudrait peut-être que je m'en crée un en public.
Ok.
Parce que sinon je suis en privé, donc bah vous pouvez toujours tenter, je vous accepterai peut-être pas si je vous connais pas.
Ok, bon donc pas d'actualité pour le moment, c'est pour ça que t'es là aussi à la radio,
ouais,
comme ça on balance tes actualités au monde, c'est-à-dire à Angers, c'est déjà
non,
pas mal.
Non mais je créerai un compte public et vous serez les premiers.
Trop bien, en exclusivité,
voilà,
j'adore
exactement.
L'idée. De toute façon, on partagera en story les dates de tes spectacles pour que nos auditeuristes puissent venir te voir si elles le souhaitent.
Trop gentil.
Et de mon côté, tu sais déjà que tu peux compter sur ma présence.
Oui.
J'ai trop trop hâte de découvrir tout ça d'ailleurs parce que ça a l'air d'être pépite, même si j'en sais pas grand-chose encore, mais ça a l'air trop cool.
Et ouais.
Et t'es trop contente de teaser tes trucs.
Ouais, je suis une pro pour ça.
Donc merci encore d'avoir accepté l'invitation et surtout... Merci Célia de participer à ton échelle à la représentation positive des femmes dont on a tant besoin. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale, puis nous reviendrons dans quelques instants avec l'histoire d'une femme dont le destin bascule lorsqu'elle est envoyée dans un couvent avant d'être mariée de force à un Anglais égoïste et arrogant. J'en dis pas plus pour laisser Léonie vous présenter cette œuvre qui a l'air bouleversante. Puis nous discuterons ensemble de nos premières règles et de la façon dont on a été confronté ou non à ce grand tabou. Et trigger warning, je préviens déjà, on ne va pas mâcher nos mots. Donc les petites natures là, qui ne sont pas prêtes à entendre parler du sang, bah, va falloir vous accrocher. Mais avant tout ça, je vous propose d'écouter Prince déconstruit de April. J'adore sa façon de se réapproprier les histoires de contes de fées pour en faire un texte féministe et engagé. Je vous laisse profiter de sa good vibe attitude et on se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute!
Il était une fois un prince vraiment charmant. Je vous jure que ce n'est pas l'un de ces contes barbants. Car la belle avait bien compris qu'elle ne serait rien d'autre que belle. Elle s'est rasée la tête puis elle a crié vers le ciel. Je ne suis pas à sauver, range ton épée. Je ne suis pas à sauver, je sais ce que je fais. En revanche, si t'échoues, je veux bien croquer un bout. On pourrait s'aimer une nuit, ou peut-être toute la vie. Il était une fois un prince vraiment hésitant et tout penaud sous son armure. Descendait de sa monture. Oh la belle et rebelle, mais tous ses sens s'en éveillent. Jamais il n'aurait cru possible d'être à son charme si sensible. Elle n'est pas à sauver. Je range mon épée, mais moi je veux bien l'aimer. Je suis prêt à changer. Avec joie être ton chou. Je veux bien croquer. Je crois bien que je suis amoureux.
Avec nous dans Elle était une fois sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Et je suis toujours avec mes copines Emeline, Mayalène, Maëlys, Cassandra et notre invitée du jour, Célia Guilherme, artiste de comédie musicale et prof de chant et plein d'autres choses au Folie en juin. Ça va, Célia, tu passes un bon moment?
Mais trop bien, j'adore!
Nous partons à présent pour un voyage dans le temps, dans la Jamaïque du XVIIIe siècle, pour découvrir le passé mystérieux de Bertha Mason, de son vrai nom Antoinette Cossouet. Découvrons la nouvelle lecture de Léonie, et je sais pas vous, mais j'ai déjà trop envie d'entendre tout ça. Bonjour Léonie !
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau point littéraire de « Elle était une fois ». Après vous avoir présenté un roman graphique sur les violences sexistes et sexuelles, et une trilogie de fantasy avec des meufs badass qui complotent et manipulent, laissez-moi vous emmener aujourd'hui dans un univers totalement différent. Le livre dont je vais vous parler s'appelle La prisonnière des Sargasses. Sargasses, S-A-R-G-A-2-S-E-S. Il a été écrit en 1966 par l'autrice Jean Rhys, R-H-Y-S, une femme de nationalité britannique, mais qui est née et a vécu toute son enfance sur l'île de la Dominique, qui à cette époque était une colonie britannique. Le livre, vous pouvez le trouver en français dans la maison d'édition Gallimard. Mais au fait, de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, avant d'évoquer la prisonnière des Sargasses, il faut que je remonte un peu en arrière. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du classique de la littérature anglaise Jane Eyre, écrit par Charlotte Brontë en 1847? Jane Eyre, c'est l'histoire d'une orpheline dont on va suivre le parcours jusqu'à ce qu'elle devienne gouvernante du manoir de Thornfield et qu'elle tombe amoureuse de son propriétaire, Mr. Rochester. Et là, vous êtes probablement en train de vous dire « Mais Léonie, c'est quoi le rapport ?» Eh ben en fait, le rapport, c'est que globalement, dans Jane Eyre, l'antagoniste, spoiler warning, c'est Bertha Mason, une femme créole complètement folle dont on apprend qu'elle est la première femme de Rochester et qu'elle vit complètement cachée de Jane dans le manoir. Et quand Jean Rhys, elle lit ce roman, elle est frappée par le traitement qu'on fait du personnage de Bertha, qui s'inscrit dans une vision stéréotypée et raciste de la femme créole. Alors, après 9 ans d'écriture, elle publie La prisonnière des Sargasses, qui tente d'expliquer la vie de Bertha Mason, de son nom original dans le roman Antoinette Cossouet, avant qu'elle ne sombre dans la folie. On suit alors son enfance en Jamaïque. On y découvre sa famille et on commence à comprendre la complexité de son personnage. Mais quand elle se retrouve à devoir épouser un homme anglais qu'elle n'a jamais rencontré pour des raisons financières, c'est là que commencent véritablement ses problèmes. J'ai été fascinée par ce roman quand je l'ai découvert. J'avais étudié Jane Eyre en cours d'anglais en terminale, donc j'avais dans ma tête la vision caricaturale de Bertha Mason, qu'on avait interrogée mais sans vraiment aller très loin. Alors quand j'ai appris l'existence de La prisonnière des Sargasses et que je l'ai lue, ça a été un vrai déclic. J'ai trouvé ça tellement intéressant de se réapproprier des personnages ou des situations qu'on juge mauvaises en leur donnant une nouvelle histoire. Le roman, il est oppressant, tragique et violent. Et parfois, il nous perd dans sa narration, de la même manière que les personnages se perdent dans leur propre vie. Alors si vous êtes curieuse et que vous voulez vous plonger dans la vie tourmentée d'Antoinette Cossouet, renommée plus tard Bertha Mason par son mari, vous pouvez la découvrir dans La prisonnière des Sargasses de Jean Rhys. Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle recommandation féministe. Oh, et j'allais oublier. Arrivederci!
Merci beaucoup Léonie pour cette nouvelle découverte. J'avais déjà envie de lire Jane Eyre, mais maintenant j'ai d'autant plus envie de lire La prisonnière des Sargasses. L'heure est venue à présent de discuter de quelque chose que toutes les personnes possédant un utérus ont déjà vécu et qui nous gâche la vie chaque mois, je veux parler des règles. Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer ce que sont les menstruations, mais au cas où, il s'agit de l'écoulement périodique et temporaire par le vagin d'un mélange de sang, de sécrétions vaginales et de cellules de la paroi utérine. Et merci Wikipédia pour cette magnifique définition. Personnellement, je me souviens très précisément de mes premières règles. J'avais 12 ans, c'était pendant les vacances d'octobre. Et bah d'ailleurs, je me rends compte que ça fait tout pile 10 ans que je suis réglée. Donc bah bon anniversaire à mon utérus. Aléatoire comme info. Bref, j'ai eu la chance d'être déjà éduquée sur le sujet par ma mère. Donc je savais ce qui se passait, mais j'étais quand même terrifiée. À l'idée de découvrir du sang dans ma culotte. Et heureusement, j'ai pu en parler à ma belle-mère qui m'a donné une serviette, qui a été là pour moi et tout ça à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de chance et je sais que c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc je voulais savoir comment vous, ça s'était passé pour vos premières règles. Célia.
Alors moi déjà, c'était le lendemain d'une fête de famille. Alors j'étais en mode bon, ok. Oh. Puis moi, je suis dans une fratrie, je suis la seule fille. Donc j'avais été vite fait sensibilisée, mais pas plus. Mais surtout, genre, je me souviendrai. Mais vraiment, ça m'a marqué. Je suis allée aux toilettes, j'ai vu, et c'était pour vérifier. Et puis, je suis repartie, donc j'ai pas tiré la chasse. Parce que, bref, peu importe. Je suis ressortie, mon cousin, il a fait « Célia, là, ses règles !» Mon cousin, qui n'était jamais là, mais juste, il a capté parce qu'il a deux sœurs. J'ai dit « Même pas le temps de faire quoi que ce soit, ça y est !» Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, c'était horrible parce que ça, ce n'est que l'annonce. Bah, mais oui. Après, la douleur, la quantité, le flux, bref, peu importe, c'était horrible. Chiant.
Ouais. Ok, donc tu l'as pas très très bien vécu.
Non, j'avoue, non.
Je comprends. Et toi, Magalène, comment t'as vécu tes premières règles?
Alors moi, j'ai drôlement un peu bien vécu.
Enfin, ok.
En fait, j'ai 6 grandes sœurs et du coup, en fait, quand j'étais petite, j'en entendais parler, etc.
Ouais.
Et en fait, j'avais juste hâte, je sais pas pourquoi. Alors que bon, j'aurais préféré ne pas avoir hâte, mais bon. Et c'était début de rentrée de 6e, un truc comme ça. Et le seul truc qui était chiant, c'était que ma meilleure amie, quand elle l'a su, elle arrêtait de me parler du jour au lendemain.
Mais what?
Pour qui, pourquoi? Mais sinon, en vrai, j'étais très bien éduquée sur le sujet, etc. Donc j'ai pas eu peur ni rien. Donc j'ai eu cette chance.
Ouais, trop cool. Et toi, Emeline, comment ça s'est passé tes premières règles?
En vrai, moi aussi, c'est plutôt bien passé. Je me rappelle aussi exactement de ce jour-là. C'était un mercredi mois de juin. Et je rentrais de l'école, et pareil, je suis allée aux toilettes et j'ai vu qu'il y avait du sang, etc. J'étais pas affolée parce que ma mère m'en avait déjà parlé. Mm-hmm. Donc franchement, ça allait. Et je crois que j'étais aussi plutôt jeune. Je crois que j'étais encore en primaire, j'avais 9 ans. Donc j'ai eu hyper jeune. Mais j'ai pas non plus paniqué. Je suis allée voir ma sœur parce que ma mère était au téléphone. Je lui ai dit, elle m'a dit, ok, y a pas de souci, je te montre comment on fait. Et voilà.
Ah, tu les as eu super jeunes. Ouais. Et du coup, t'as eu la chance d'être éduquée avant que ça t'arrive. Parce que si jeune, t'aurais pu ne pas savoir en fait ce qui t'arrivait. Quoi.
En fait, ma mère, elle m'en parlait normalement. Enfin, elle me disait, ouais, c'est si jamais un jour tu te réveilles, tu vois, t'as ça, tu fais comme ça. Et puis voilà.
Ok. Vous, les filles, vous aviez quel âge quand vous avez vos premières règles, Marie-Hélène?
10, 11 ans, un truc comme ça.
Ok. Et toi, Célia?
Moi, je pense que c'était plus tard. Je crois, genre, c'était les 10 ans de mon frère. Donc, Izzy, j'avais 13 ans. 12, 13 ans.
Ok. Ah ouais, tu les as eu vachement jeunes. Oh, ma pauvre.
Mais je crois que c'est vraiment de famille, parce que ma mère aussi, elle les a eu jeunes aussi.
Ah, mais non, mais je vous envoie du soutien alors, hein, parce que franchement, c'est dur. Ok, mais je sais pas pour vous, mais même si j'étais très très bien éduquée sur le sujet et tout ça, et que c'était pas du tout tabou dans ma famille, on en parlait au KLM et tout, j'étais ultra gênée, moi, d'en parler. Je sais pas, j'avais honte, et j'ai mis très longtemps, plusieurs années, avant de pouvoir en parler aussi librement que maintenant, notamment devant des hommes. Est-ce que vous avez ressenti la même chose, ou est-ce que je suis toute seule? Maïalène.
En vrai, un peu, surtout au collège.
Ouais.
Ou même, je me rappelle des cours de sport où on allait à la piscine et que moi, mon prof, c'était un homme. Et je me rappelle, j'osais pas dire le mot règle, on utilisait ragnagna.
Oh my god.
il y avait un peu cette honte, alors qu'en soi, c'est totalement naturel. Donc,
Ouais. Ok. Et toi, Célia, t'avais honte ou pas du tout?
Alors, moi, pas du tout. J'ai même jamais été d'en parler. C'est la première chose qu'on m'a dit. Je sais que ma grand-mère m'a fait, mais je comprends pas, t'en parles hyper naturellement et tout, tu me le dis ouvert, je fais, moi j'en ai rien à faire, enfin, c'est quelque chose qui arrive, c'est naturel, enfin vraiment, je m'en cache pas, mes frères, je peux leur dire n'importe quelle info, enfin, peu importe, mais en gros, je me gêne pas, je dis des règles, enfin voilà.
Ouais, ok, t'as jamais eu de tabou par rapport à ça, aucune honte.
Non.
Trop bien, t'as beaucoup de chance, c'est super. Et toi, Emeline ?
Bah, pas vraiment dans mes souvenirs, à part peut-être, je sais que des fois au collège ou même bah, du coup, un peu en primaire aussi, genre il y avait quelques garçons qui rigolaient avec ça, j'étais un peu en mode bon, c'est pas très drôle mais c'est pas grave.
Ouais.
Mais sinon, non, entre copines et tout, j'ai jamais eu de honte. Je sais que j'avais ma meilleure amie de primaire aussi, elle les a eu un an après moi, et du coup, c'est moi qui lui ai expliqué comment. Certaines choses en tout cas, enfin pas tout parce qu'elle avait aussi une grande sœur et tout. Mais...
Ok. Ouais. Donc tu t'es retrouvée à éduquer un petit peu tes copines sur le sujet. C'est trop cool. Moi aussi, je me suis retrouvée alors pas sur les règles, mais sur plein d'autres choses, parce que du coup, comme c'est des sujets qui n'étaient pas du tout tabous dans ma famille, pareil, enfin la sexualité et tout ça, j'étais au courant de plein de choses, j'avais des livres pour apprendre et tout ça. Du coup, c'est moi qui éduquais mes copines, c'est très drôle. Ok, donc on a peut-être des jeunes auditoristes qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour qu'elles se sentent à l'aise sur le sujet et que ce soit pas quelque chose de tabou ? Parce que finalement, ce tabou, il fait plus de mal qu'autre chose parce que on se sent honteuse, on se sent sale, on n'en parle pas. Et en fait, ça peut poser des problèmes, notamment si on a des problèmes de santé. Et du coup, ça peut retarder des diagnostics de certaines maladies, par exemple l'endométriose, le SOPK et tout ça, ou juste des douleurs qu'on peut ressentir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ce tabou disparaisse et qu'en fait, ce soit plus tabou de parler des règles parce que c'est hyper naturel, ça a toujours été là. Toutes les femmes de l'humanité l'ont eu et les auront encore jusqu'à la fin de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit plus à l'aise avec le sujet ? Mayalène.
Je pense déjà qu'il faudrait, même nous, en tant que personnes plus âgées, pas avoir peur d'en parler, etc. Même autour de... Enfin, moi, je sais que j'ai des nièces, par exemple, en parler dès qu'elles sont petites et qu'en mode, c'est pas grave, c'est la nature. Et puis aussi... J'ai l'impression que c'est quand même compliqué que ça soit plus tabou, notamment envers les hommes. Enfin, je trouve qu'envers les femmes, en soi, on n'a pas pas ce tabou. Enfin, c'est très rare. Mais du coup, oui, envers les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense, c'est juste ne pas avoir peur et puis en parler. Et voilà.
Est-ce que vous pensez que si on sensibilisait aussi les hommes dès leur enfance, les petits garçons et tout, qu'on leur expliquait aussi les choses et ce qui nous arrive, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider à détruire ce tabou, Emeline ?
Franchement, je pense que oui, parce que déjà, eux-mêmes, ils n'auront pas forcément ce truc, parce que je sais qu'il y a des hommes, ils vont peut-être se sentir juste dégoûtés en entendant le mot règle.
Ouais.
Donc, déjà, juste ça, même juste le fait de comprendre que ça peut être douloureux, ça fait mal, etc. Donc, c'est pas forcément très agréable, et justement, d'aider les personnes autour d'eux, en fait.
Ouais, ok. Après, là, on discute aussi de notre point de vue de française et d'occidentale, parce que faut savoir aussi que dans certains pays, c'est culturel, cette honte. Je dis pas que c'est bien, parce qu'à un moment donné, ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça, donc peut-être remettre en question les choses. Mais en même temps, ça reste culturel dans certaines régions, certains pays, certaines cultures, donc ça peut être aussi compliqué. Mais en tout cas, ici en France, je pense qu'on a largement des choses à faire qu'on puisse pour mettre en place et briser ce tabou. Est-ce que Célia, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça pour aider toutes les petites personnes menstruées qui vont bientôt avoir leurs règles pour pas qu'elles se sentent mal ?
Moi, je pense que c'est surtout de se dire que c'est naturel. C'est vraiment, déjà, nous, c'est pas nous qui décidons quand est-ce que ça arrive, c'est pas nous qui décidons... qu'on ait ça, c'est naturel.
Bah oui.
Et du coup, vu qu'on n'y peut rien, faut pas s'en cacher, au contraire, l'accepter tel qu'on est. Je pense que si aujourd'hui, c'est pas tabou pour moi à l'oral, si je m'en cache pas, c'est parce qu'aussi, dès que je les ai eus, c'est mon cousin qui l'a crié ouvertement. Non, mais mine de rien, j'y repensais tout à l'heure et j'ai fait, mais en fait, vu que pour lui, c'était naturel avec ses deux grandes sœurs, du coup, ça a rendu le truc hyper naturel et aujourd'hui, je suis même pas gênée d'en parler.
C'est trop bien en vrai, parce que ça aurait pu être tout ou rien, je pense que à ta place, puisque je sais comment j'ai réagi par la suite, je pense que je l'aurais vécu méga mal, j'aurais été hyper gênée, parce que moi je me souviens du coup que je l'ai dit à ma belle-mère quand je les ai eus, et après du coup forcément elle l'a dit à mon papa, parce que j'étais chez mon papa à ce moment-là, et mon papa il est venu me voir dans la cuisine, il m'a fait un câlin, il m'a dit « si t'as besoin d'en parler, t'en parleras à Isabelle ». Bisous à Isabelle, merci d'avoir été là pour moi à ce moment-là, parce qu'en même temps mon papa je le voyais pas trop... je pense qu'il était tout aussi mal à l'aise que moi. Et maintenant, si je lui demande d'acheter des serviettes, il panique un peu. Mais tout va bien se passer, papa, c'est pas grave. Et tu vas continuer à m'acheter des serviettes hygiéniques quand je viendrai chez toi. Et tout va bien se passer. Est-ce que Maëlys et Cassandra, autour de la table, vous avez, des petits tips aussi pour aider les personnes qui nous écoutent à moins avoir peur de leurs règles ? Cassandra ?
Non, en vrai, tout le monde a déjà dit, mais c'est un truc naturel que il faut accepter, parce que de toute façon, c'est là.
Ouais. Ok. Et Maëlys, est-ce que t'as un truc à rajouter?
Moi, je pensais plus niveau ressenti et douleur.
Ouais.
Pas hésiter à en parler, ou plutôt de vraiment pas à en avoir peur, mais d'être consciente que à un moment donné, il y aura peut-être des douleurs et qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler. Que il y a des fois des traitements, enfin pas forcément des traitements, mais des médicaments de quoi. De quoi soulager la douleur, en tout cas que la douleur, faut pas la garder uniquement pour soi, et c'est bien aussi d'en partager.
Ok, donc faut en parler, faut pas hésiter, et c'est vrai parce que bon, on va pas se mentir, l'écoulement de tout ça, tout ce que je vous ai cité, le sang, la muqueuse utérine et tout ça, en fait c'est expulsé par des contractions de l'utérus. Donc les gars, imaginez-vous des contractions, par pitié. C'est normal qu'on dise qu'on a mal au ventre et qu'on soit mal, mais en même temps c'est pas normal d'avoir trop mal. C'est un peu, ma phrase est pas très française, mais c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, parce que même si c'est normal d'avoir des contractions, les douleurs en fait c'est signe souvent qu'il y a un souci. Et ça peut être de graves soucis comme l'endométriose ou le SOPK ou d'autres maladies que j'ai pas forcément en tête. Mais donc, faut pas hésiter à en parler à son médecin ou carrément à une sage-femme, un gynécologue, peu importe, à quelqu'un, un professionnel de santé qui pourra vous aider, vous aiguiller, à voir si il peut y avoir une solution, un traitement, une pilule. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a donné, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais ça peut être aussi détecter l'endométriose ou toute autre maladie. Ça peut être plein de choses. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, parce que c'est super important et faut prendre soin de sa santé. Célia, tu as quelque chose à rajouter?
Ouais, et c'est le moment où je vais un peu passer
défoncer des gueules. Okay.
Voilà. Je connais des personnes qui ont déjà été rejetées aux urgences parce qu'elles avaient trop mal à cause de leurs règles par des médecins, surtout hommes. Faut pas sous-estimer la douleur, parce que souvent les personnes qui sont atteintes d'endométriose ont du coup des règles plus douloureuses. Il y a une personne qui a accouché qui a dit moi j'ai pratiquement pas senti mes contractions sans péridurale. Elle n'a pas eu la péridurale parce qu'elle a l'endométriose. Alors que si on regarde, enfin tout le monde sait que les contractions sont au-dessus de l'échelle de la douleur. Donc si on ne sent rien, faut s'imaginer ça tous les mois pendant d'énormes années. Voilà. Donc petit coup de gueule à toutes les personnes qui nous disent mais non mais c'est des règles, ça fait pas mal, c'est rien, c'est normal. Non. Voilà. Désolée.
La fille elle est énervée.
Voilà.
Et t'as raison parce que c'est vrai qu'il faut prendre en considération, et quand on vous dit qu'on a mal, on a mal, bordel. Donc écoutez-nous un peu, parce qu'on pourrait faire avancer beaucoup de choses, notamment beaucoup de diagnostics. Ok, et ben merci à vous toutes, je vais pas compter parce que je sais pas compter, pour cet échange. C'était trop chouette de pouvoir discuter avec vous, et j'espère que nous avons pu aider certaines de nos auditrices qui ne se sentaient pas forcément à l'aise avec ce sujet. D'ailleurs, j'en profite, auditrices, si vous avez des astuces pour mieux vivre ces règles, ou si vous souhaitez nous partager vos témoignages liés aux menstruations, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram euf-radio-g. Ça nous fera trop plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup à l'équipe d'aujourd'hui. Merci Anna, merci Emeline, merci Léonie, et merci Mayalen, et merci Cassandra, merci Maëlys, et merci à tout le monde. Et bien sûr, merci à vous aussi, auditeurs, auditrices, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux sujets. Et si je peux vous teaser, nous recevrons la FEMUSE, l'association angevine qui a pour objectif, pour projet, de créer le premier musée des féminismes de France. Et c'est trop stylé, j'ai trop hâte de les recevoir. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM, et je suis toujours aussi contente de pouvoir discuter avec vous pendant une heure, c'est trop chouette. On vous a parlé durant cette heure des nouveaux uniformes de l'Eurostar, Anna nous a parlé du film en ce moment à l'affiche Moi qui t'aimais, puis Léonie nous a présenté La prisonnière des sargasses de Jean Rhys, et nous avons débattu sur les menstruations. Nous avons eu le plaisir de discuter avec Célia Guilherme, artiste de comédie musicale et prof aux Folies Angevines et encore bien d'autres casquettes. Merci encore d'être venue, ça va, t'as passé un bon moment avec nous?
Trop bon, j'adore.
T'adore, trop cool. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, et tu reviens quand tu veux sur le plateau, parce que c'est la maison ici, tu connais.
Trop gentil, merci.
On vous souhaite une très très belle journée sur Radio G. Retrouvez Entre les pages ce soir à 17h. Et si vous souhaitez continuer à écouter les femmes, rendez-vous demain à 20h avec Elle chante la francophonie. Quant à nous, on revient dans 2 semaines à 13h. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram EEUF-Radio G. Et d'ailleurs, on va finir cette émission avec une dernière musique qui nous est présentée cette fois par Emeline.
C'est déjà la fin, quelle tristesse.
Mais oui.
Mais quoi de mieux que de finir en chanson avec une artiste qui parle de ce que c'est d'être une femme dans une relation hétérosexuelle. Mmh. Et je l'avoue que je l'ai aussi choisie parce qu'on a le même prénom.
Oh.
Je vous laisse écouter What It Means To Be A Girl de Emeline. Bonne écoute et à bientôt sur Radio G.
Fake a smile, fake an orgasm, fake a laugh, do it all for him. Be polite, spend the night, call it self-defense. Got the time of his life at my own expense. But even if he were my man, he'd never truly understand what it means to be a girl. Put ribbons in my curls, then carry around a knife with my diamonds. It's psycho, we're living in a world where I get into clubs because I'm hot as fuck, but I don't trust what's in my cup. That's what it means to be a girl.
Checking the stats, fuck all the facts. Screw that monkey, listen to that.